parler des journées du patrimoine avec nos deux chroniqueurs. Ce week-end, pour ces journées du patrimoine, l'établissement public en charge de la restauration de Notre-Dame présentera sur le parvis de la cathédrale les différents artisans, ouvriers, métiers qui participent à la sécurisation et la restauration de l'édifice. Et depuis lundi, Rémi Brancato nous emmène sur ce chantier, celui d'une vie pour beaucoup de ceux qui y participent. Dernier épisode aujourd'hui, le travail de tri des vestiges et le travail scientifique mené sur le chantier.
Fin avril 2019, donc à peine une semaine, 10 jours après l'incendie, dans la cathédrale, il y avait trois amas, que certains ont appelé des décombres, des gravats, et que nous avons considérés immédiatement comme des vestiges. Il faut imaginer donc une voûte à ciel ouvert, et au sol, trois tas de bois calcinés, de fragments de voûte, donc de pierres effondrées, le tout enchevêtré, comme une sorte de mikado géant dont il fallait extraire les éléments un par un, de manière délicate pour ne pas les abîmer. Je suis Dorothée Chaouy-Durieux, je suis conservateur du patrimoine à la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France.
Moi, je suis Aline Magna et je dirige le laboratoire de recherche des monuments historiques. Je suis historienne de l'art. Nous avons travaillé au début avec la police scientifique parce qu'il y avait aussi l'enquête sur les origines de l'incendie. Donc la police scientifique était aussi là. On s'entraidait d'une certaine manière, on leur tendait certains éléments qui pouvaient les intéresser. Ils nous tendaient d'autres éléments qui pouvaient aussi, à leurs yeux, nous intéresser.
Sur le sol, ce n'est pas nous qui faisions le prélèvement des vestiges, mais des personnes aidées d'engins télécommandés qui allaient les chercher pour nous les apporter sur la table de tri, alors qui était située de l'autre côté, dans l'autre bas-côté de la cathédrale, sur laquelle nous opérions le tri, les mains dans le charbon, les mains dans les vestiges, pour voir ce qui était intéressant de conserver et ce qui risquait de plus avoir aucune valeur patrimoniale. Ça représente aujourd'hui plus de 10 000 bois qui ont été intégralement conservés, entre 600 et 700 palettes de pierre, et environ 350 palettes d'éléments métalliques.
Est-ce qu'il s'agit à ce moment-là de se dire ces pierres-là vont retourner sur une future voûte reconstruite à l'intérieur de Notre-Dame, ou alors elle servira de modèle?
Les architectes eux-mêmes ont beaucoup évolué dans leur manière de voir les choses. Il y a des pierres qui vont servir de modèle. Il y a des pierres pour les tailleurs de pierres, enfin, qui vont retravailler. Il y a peut-être des pierres qu'on va arriver à remettre en place, mais c'est courir des risques. Hein. Une pierre peut être en apparence en bon état et être en réalité fissurée à l'intérieur. Ce sera peut-être à titre symbolique, justement. Garder une ou deux pierres anciennes, c'est un vieux principe, en fait, de la construction aussi, en particulier dans les édifices religieux. Et puis il y a aussi tout ce qui peut permettre de mieux comprendre comment ces arcs étaient construits. Ça va permettre d'aider l'établissement public à faire les meilleurs choix en matière de reconstruction des voûtes.
Ce qui est important, Aline Magnin, c'est que ce malheur, cet incendie, permet aujourd'hui de faire avancer la connaissance scientifique sur Notre-Dame. Finalement, ces vestiges dont vous parlez, qui ont été triés ici, c'est une matière à recherche scientifique exceptionnelle.
Ah oui, oui, du point de vue par exemple des bois, il est rarissime que l'on puisse avoir une telle quantité de bois de diverses périodes à portée de main et utilisable pour la recherche, utilisable pour quantité de questions qui vont de l'origine de ces bois, des conditions dans lesquelles ces bois ont été cultivés, du climat de l'époque. C'est le bois enregistre la mémoire climatique de manière assez extraordinaire. Donc le chantier scientifique Notre-Dame, qui est né au lendemain de la catastrophe, rassemble des chercheurs de très nombreux laboratoires, universités, des scientifiques de sciences dures, mais aussi des historiens. Au moins à certaines périodes, on peut compter qu'il y a environ 175 chercheurs qui sont impliqués dans ce chantier.
Ça va, Steve ? Ça va ? Et toi ? Bien ?
Il y a une vraie camaraderie sur le chantier. Vous vous êtes fait des amis ici, Dorothée ?
Il y a une famille Notre-Dame qui s'est créée presque naturellement. Et on arrive à une phase de transition entre le chantier de sécurisation et le chantier de restauration. Un certain nombre de personnes qui étaient présentes depuis 2 ans progressivement partent du chantier. Et je ne doute pas qu'il y aurait un certain baby blues au moment de partir pour les uns et pour les autres. D'un point de vue humain, ça a été vraiment une expérience hors du commun.
après cette visite du chantier de Notre-Dame, de ses différents métiers, ses rencontres au micro de Rémi Brancato. Vous les retrouvez sur franceinter.fr et sur les bonnes plateformes de podcast, tous les épisodes de ce feuilleton qui était réalisé par Lucie Lemarchand. Et donc ce week-end, les journées du patrimoine, le bureau de Jean Lebrun à France Inter peut-il être visité? C'est la question.
France Inter, le 13-14.
Réponse?
Il date de la plus haute
antiquité. Alors, votre contribution aux journées du patrimoine. Alors, vous allez nous parler de château, comme un Stéphane Bern, en quelque sorte.
Oui, parce que lui, il a abandonné ce couloir. Ce jeudi, Monsieur Patrimoine...
Oui, lui-même, Stéphane Bern.
...a invité le couple présidentiel à l'un de ses déplacements officiels. Et où l'a-t-il emmené? Sur la route qui mène de sa propriété du Perche, à Paris, dans un village de rien du tout. Il y est Combray, une petite maison avec à peine un jardin de curé, chez une certaine Madame Léonie. D'ailleurs, je lis dans l'Express, qui a consacré sa une à Stéphane Bern, un long dossier où il est expliqué qu'il n'aurait plus Dieu que pour les vieux moulins à eau, la petite sidérurgie du 18e, quand c'est pas pour la collection communiste du musée d'histoire populaire de Montreuil, dans le 93. Alors moi, je ne veux pas laisser les châtelaines et les châtelains abandonnés à leur sort, et je vais leur consacrer cette chronique, et parmi elles et eux, c'est comme ça qu'on dit.
Oui, Renaud, oui, s'il vous plaît.
Je ne parlerai que des nobles qui ne méritent pas d'être traités comme des ci-devant.
Bon, mais peut-être, mais vous me dites qu'il y a 45 000 châteaux en France et seulement 3 000 familles nobles.
Chiffre avancé par l'association de la noblesse française qui ne donne son estampille qu'aux meubles de haute époque. Car sachez-le Bruno, c'est pas parce que vous deviendriez du plus loin vic par un coup de savonnette à vilain que vous seriez noble pour autant.
De quoi? De savonnette à vilain?
Oui, parce qu'au beau temps de la monarchie, comme dirait Stéphane Bern, on pouvait espérer effacer sa roture en payant son anoblissement. Mais les Français savent discerner le vrai du faux. Aux journées du patrimoine, ils préfèrent visiter par priorité les châteaux que leur ouvrent de vrais nobles. Je me souviens d'une visite au château de Busset, dans l'Allier. Un nouveau propriétaire avait appris à sa guide à se moquer des anciens, les Bourbons Busset, que la ruine avait contraint à vendre. Les Bourbons Busset, voulant ajouter encore quelques années après 14 générations, s'incrustaient dans la demeure. Et quand nous sommes parvenus au pied de l'aile où ils s'éternisaient, nous les avons longuement cherchés derrière les rideaux parce que nous étions nostalgiques. Une nuit, dans une chambre d'un château. Le repas à la table des maîtres, mieux le mariage dans leur chapelle ou leur salon, c'est le dernier zoo humain qui soit encore permis aujourd'hui.
Vous voulez dire que la difficulté des châtelains, que des considérations économiques contraignent à ouvrir leurs portes, les met en difficulté donc?
Comment autrement, sans ouvrir, relever les toits, fumer les terres autour? Autre souvenir,
oui.
Un week-end à Annette, Eure-et-Loire, invité par les lointains successeurs de Diane de Poitiers.
Oui.
Dans la salle à manger, la table, dont l'acajou brillait comme l'argenterie, était superbement mise, mais j'étais à peine assis qu'un chewing-gum me collait à ma culotte, dissimulé là par les visiteurs du matin. Et ensuite, il a fallu manger en deux temps trois mouvements sous peine de voir les visiteurs du soir surgir avant le dessert. Et la nuit, j'avais oublié mon tabac dans le salon. Impossible d'aller le chercher parce que un rayon laser barrait la route du hall. Il faudrait, Bruno, salarier les familles qui maintiennent ces demeures. Vera, nobilitas, virtute, virescit.
C'est à la vertu qu'on reconnaît la vraie noblesse.
Je savais que votre italien était courant.
Alors, si Stéphane Bern appartenait encore à son ancien monde, il insisterait sur la difficulté des transmissions et des successions. Et
oui,
vous allez le faire.
Comment dédommager les cadets qui n'héritent pas du château? Et comment consoler les aînés qui jalousent les cadets parce que ceux-ci n'ont pas la charge d'un chantier permanent? Depuis longtemps, la noblesse, on ne le sait pas assez, a su conjurer le déclin en prenant le chemin des écoles les plus profitables, HEC, ESSEC, etc., et en s'internationalisant. Et sa jeune génération montante, décomplexée, commence à dire qu'elle préférerait passer des vacances dans l'air climatisé de Dubaï plutôt que dans les courants d'air des vieilles baraques au milieu de la cambrousse. Alors, prenez garde tout de même à ce que cette génération montante dit. Elle a aussi suivi des cours de communication pour apprendre à pleurer misère face aux caméras. Et elle a tout appris des émissions de Stéphane Bern.
Qu'on salue amicalement. Intelligence Service demain, 18h.
Dante.
C'est bien noté et donc payer son anoblissement, c'est utiliser la savonnette à vilain.
France Inter.